Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ce que tu m'as aimé plus que je ne pouvais le penser. Tu as aimé chacun de nous. Et c'est les bras grands ouverts que tu nous accueilles, Seigneur, dans ton amour. Je veux juste être perdu dans ton amour cet après-midi. Nous avons juste envie d'être perdus dans ton amour cet après-midi. Saint-Esprit, donne-nous de le sentir et de le vivre. Merci pour ta présence qui est palpable. Et merci pour ce que tu fais déjà. Fais silence en nos cœurs pour entendre ce que tu veux nous dire. Je veux entendre et comprendre ce que tu veux me dire au travers de cette parole. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Waouh. Merci Seigneur. Dieu est bon. Je vais dégager juste un peu, excusez-moi. Ok. Waouh. Merci, merci en tout cas pour qui vous êtes, pour la présence de Dieu que je sens en chacun et ça me fait du bien. Merci Seigneur pour ta présence. On se dit chrétien, hein, je crois que on est chrétien, c'est ça. On est des chrétiens. Et les chrétiens en général, ce qui est la marque du chrétien, en général, c'est une croix, n'est-ce pas? Une croix. Quand on dit un chrétien, on pense à quoi? À une croix. Quand on voit une église, on pense à voir une croix au-dessus. On a une croix qui est là avec un joli, je sais pas, un drap, vous l'appelez comme vous voulez, tout rouge, qui représente vraiment la chrétienté. Et la croix est tellement importante. On l'a partout, on parle de la croix, de la croix. Il y a même des religions qui font tout pour arriver à trouver une définition de la croix dans leur religion. Ils ont inventé des croix à plusieurs branches. Vous les voyez sur les tenues, sur des cannes, etc. Parce que la croix a quelque chose d'important et de puissant. Il y a même des gens qui recherchent le fameux bois réel qui a été utilisé, soi-disant qu'il y aurait un pouvoir immense là-dedans. S'ils ont cette relique-là, le petit morceau de bois, ils vont le déposer quelque part, ils vont l'adorer. La croix, la croix, la croix. Et vous savez, le diable, quand il entend la croix, il tremble et il fuit. Parce qu'il y a quelque chose de puissant qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et ce message, il brûle sur mon cœur. Je suis en feu de pouvoir en parler. La croix, la croix, la croix. L'œuvre de la croix. Faisons un peu d'histoire. C'est quoi en fait la croix? La croix, c'était juste un objet que quelqu'un, un jour, dans son imagination tellement tordue, a inventé comme peine de mort, en fait. C'était le roi Darius, c'était 519 avant Jésus-Christ, roi Darius Ier de Perse, en Babylone. Il avait des opposants politiques, il y en avait 3000, et il a inventé la chose la plus horrible pour les tuer, une croix, la crucifixion. Il va crucifier toutes ces personnes-là sur la croix. Et en fait, c'était tellement tordu dans son idée, dans son envie de le faire, qu'en fait, la croix, la mort sur la croix, c'est quoi? Vous avez les deux bras de façon horizontale, et vous avez, qui sont cloués par des clous, c'est pas des petits clous qu'on a dans nos caisses à outils à la maison, hein. c'est des éléments énormes, hein, comme nos doigts, et la personne est attachée, et on cloue aussi ses pieds sur le bois vertical, et avec le poids de la personne, ça tire. Et la cage thoracique va se comprimer et ça va bloquer les poumons. Et la personne ne meurt pas d'hémorragie, elle meurt d'asphyxie pendant des heures. Il est dit dans le livre d'histoire que les personnes pouvaient rester 4 jours sur la croix pour les plus solides. Mon Dieu, quelle horreur. Alors l'Empire romain va reprendre l'idée géniale de Darius Ier et va perfectionner cette idée-là. Et c'est là où on arrive, où Jésus arrive dans la période de l'Empire romain. Et c'est la peine de mort. Il est dit dans les livres d'histoire que la crucifixion était pour avait pour but, pardon, d'infliger à la victime le maximum de honte et de torture. La crucifixion était si horrible qu'elle était réservée aux pires délinquants. Pires délinquants. Et Jésus a subi cela, alors qu'il n'avait rien fait. On le voit d'ailleurs dans Marc 15, au verset 14, on peut lire de verset 12 à 14. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Et on aurait pu le battre à mort. On aurait pu lui lancer des pierres, c'était dans la coutume juive de le faire. Mais ils ont choisi la crucifixion, pourquoi ? Par rapport au sens qu'il y avait dans la crucifixion. La honte qu'il voulait affliger à Jésus, la torture qu'il voulait lui affliger et le mettre au banc des personnes les plus malfaisantes, les personnes les plus horribles, les délinquants les plus horribles. Et Pilate va dire ceci, verset 14, justement pour le justifier. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait ? Waouh ! Qu'est-ce qu'il a fait pour que ce soit la crucifixion que vous demandez, que vous réclamez pour lui ? Mais Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il est allé jusqu'au bout. Vous savez pourquoi ? Parce que le diable, au travers de la crucifixion, l'image qui nous vient, c'est quoi ? C'est que le diable veut nous humilier. Il veut nous torturer. Il veut nous détruire. Il veut nous tuer. Il veut nous accuser d'être des personnes mauvaises. Mais Jésus est venu pour nous rendre notre dignité. Et il a accepté d'aller à la croix à notre place. À ta place, à ma place. Waouh! Je vais arrêter de parler de l'horreur de la croix. On pourrait décrire cela. Il y a des films qui le décrivent suffisamment. Vous pouvez le regarder si vous tenez le coup parce que c'est vraiment horrible. Mais il a vécu cela. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas tant de savoir l'horreur qu'il a vécue, mais c'est la motivation. Pourquoi il est allé jusque-là et vivre cette horreur quand même? Pourquoi? La réponse, c'est l'amour. Il t'aime, il m'aime, waouh! On l'a chanté, c'est incroyable, tu m'aimes au point d'aller accepter la mort la plus horrible qui soit sur terre, à ma place, Jésus. Jean 3, 16 nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un qui m'écoute va dire, bon, ok, c'est quoi, je ne comprends pas, son Fils unique, Dieu. Peut-être que tu n'es pas chrétien et tu écoutes ce message après ou en direct. Mais juste, je t'encourage, si tu as une Bible, de lire le livre de Jean, l'évangile selon Jean, de commencer par là. Et au verset 1, chapitre 1, verset 1, il est dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et que tout ce qui a été créé sur la terre a été fait par cette parole. Ça veut dire Dieu lui-même au commencement. Et il continue Jean pour dire que ensuite la parole va prendre le corps humain, va se faire chair et venir sur terre, c'est-à-dire Jésus. Donc là, tu as l'explication du Fils bien-aimé de Dieu qui sort de l'essence de Dieu lui-même, de la Trinité divine et qui se fait homme pour venir mourir pour nous. Donc oui, c'est Dieu qui est venu pour toi. Et donc, tellement il nous a aimés qu'il s'est dit, waouh, non. Je ne peux pas accepter que tu sois crucifié. Je ne peux pas accepter que tu vives cette humilité. Je ne peux pas accepter que tu vives cette honte. Je viens moi-même, je sors de ma divinité, je me fais homme pour te donner la vie, pour te sauver. C'est ça la croix, les amis. Waouh. On va regarder rapidement ce qui va se passer sur la croix. On va mettre un focus, un zoom sur le temps que Jésus va passer sur la croix. Quand on lit les évangiles, donc Matthieu, Luc et Marc utilisent une chronologie juive pour indiquer les temps. Quand vous lisez Jean, Jean lui, il utilise plutôt une chronologie grecque, donc qui correspond à ce que nous on a aujourd'hui. Dans la chronologie juive, on commence à 6 heures du matin, c'est l'heure zéro. La troisième heure, c'est 9 heures du matin. La sixième, c'est... Et la neuvième, c'est 15 heures. Voilà. Donc, on va partir sur cette chronologie-là. Et donc, j'ai identifié trois éléments rapidement qu'on va voir. la Bible a voulu, le Saint-Esprit a voulu découper vraiment le temps que Jésus a passé sur la croix en deux. On va regarder ces deux temps. C'est bizarre, 3 heures plus 3 heures. Pourquoi il a défini ainsi? Pourquoi exactement la troisième heure juive, c'est-à-dire 9 heures du matin, 3 heures après quelque chose se passe, 3 heures après quelque chose se passe? Je ne rentre pas dans ce détail aujourd'hui, mais on va juste mettre un focus là-dessus et voir l'enchaînement d'événements qui va se produire au moment où Jésus est sur la croix. Vous êtes d'accord? On va suivre ça ensemble. Regardons cela ensemble. Premier moment, j'ai nommé cela les 3 premières heures sur la croix, c'est-à-dire de 9h à midi. Vous avez compris? De 9h à midi, il y a le pardon et la honte. Marc 15, 25 nous dit clairement que c'était la troisième heure juive quand ils le crucifièrent. Donc on commence à 9 heures. Et quand on regarde dans Luc 23, 34, il va dire tout de suite qu'au moment où ils vont crucifier Jésus, ils vont lui enfoncer les clous horribles dans les mains. J'ai dit que je ne parlerai plus d'horreur, mais bon. Et ils vont le pendre sur le bois. Ils vont le faire monter. Ça va faire mal. Et à ce moment-là, Jésus... La chose qu'il dit tout de suite, au début de ces 3 heures, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Waouh ! « Pardonne-leur. L'horreur que je suis en train de subir, je leur pardonne. » Je leur pardonne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, qui écoute et qui dit, « J'ai fait des choses horribles dans ma vie. » Tellement horrible que je ne veux même pas les citer. Je ne peux même pas les citer. Tu sais quoi? Dès que Jésus est monté sur la croix, il a pardonné. Il a pardonné l'horreur. Avant même de tout commencer, avant même de passer du temps sur la croix, avant même qu'il y ait le jugement, la justice, avant toute chose, il te pardonne, il me pardonne. J'ai fait des choses horribles, tu fais des choses horribles, tu as fait des choses horribles. Tu penses que... Quelqu'un dit, j'ai l'impression de crucifier Jésus chaque fois. J'entends cette phrase. J'ai l'impression que je le crucifie chaque fois. Je n'y arrive pas. Je tombe tellement bas. Jésus dit oui, mais je te pardonne. Dès que tu enfonces le clou du péché à nouveau, je t'ai pardonné. Les amis, l'œuvre de la croix, c'est l'horreur qui est pardonnée. Tout de suite. Jésus n'est pas monté sur la croix pour que tu gardes encore la culpabilité. Le diable, il a une chose dans sa tête, c'est de continuer de te montrer du doigt et de te dire, tu es coupable. Regarde comment tu es minable. Regarde, tu n'y arrives même pas. Mais Jésus veut t'enlever cette culpabilité. Et c'est pasteur Romaric qui le disait, je l'ai noté, le diable nous culpabilise et nous déresponsabilise. Mais Jésus, le Saint-Esprit, va nous déculpabiliser et nous donner de la responsabilité. Il va nous rendre matures. Jésus est venu pour cela, les amis. On est au début des 3 premières heures. Il est 9 heures du matin. Crucifié, il relâche le pardon. Qu'est-ce qui se passe sur les 3 heures? Quand on lit dans Marc 15, 29, 32, vous pouvez voir aussi dans les autres évangiles, j'ai pris Marc, il nous est clairement décrit que pendant ces 3 premières heures-là, il y a des gens qui vont passer, qui vont insulter Jésus, qui vont le calomnier, qui vont le défier. Si tu es vraiment fils de Dieu, alors descends de ta croix. Ils vont se moquer de lui. La mort sur la croix, c'était une honte atroce quand même, les amis. Et ils vont se moquer de lui, ils vont l'injurier. Et Jésus ne va pas ouvrir la bouche. Pas une seule fois. La seule fois où la parole nous décrit que Jésus va parler, c'était pendant ces 3 heures. C'est un brigand qui était crucifié à ses côtés. Et parce que son compagnon brigand de l'autre côté était en train d'insulter Jésus aussi. Et Jésus ne répondait pas à l'injure. Mais à quoi il va répondre? Quand l'autre brigand va dire, écoute, arrête de l'insulter. Nous, on est des malfaiteurs. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et il va se tourner vers Jésus. Il va dire, Jésus, Seigneur, pense à moi quand tu reviendras dans ta gloire. Et seulement là, Jésus va ouvrir la bouche sur ces 3 premières heures. Seulement là, il ne répond pas aux injures. Il répond à la demande du salut. Quelqu'un qui veut rentrer dans le ciel. Les amis se garent, on va le retrouver au paradis. Il y est. Le soir même, il est monté avec Jésus au paradis. Waouh ! Il ne va pas répondre aux insultes. mais il va sauver. Et il est dit dans Ésaïe 53:7, ça avait déjà été prédit depuis des siècles. Je n'ai pas regardé combien de temps ça faisait. Il est dit, il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Jésus s'est tu. C'était l'étape de la honte totale. Si tu es fils de Dieu, descends. Si tu as vraiment Jésus dans ta vie, pourquoi tu es malheureuse? Toi, tu pries tous les matins et c'est toi qui es malade, quoi. Toi, tu sers le Seigneur depuis toujours et c'est ton enfant qui fait n'importe quoi. Il n'a point ouvert la bouche. Il a pris notre honte sur la croix. Les amis, c'est la phase de la honte. Et Jésus a pris notre honte sur la croix. Et l'œuvre de la croix, c'est la honte qui est ôtée. Jésus a accepté pendant 3 heures d'écouter, de prendre cette honte, pas parce que c'était pour lui, mais c'est pour te dire aujourd'hui, c'est pour me dire aujourd'hui, tu es dans une situation où tu as honte de toi-même, où les gens te calomnient et tu vis dans la honte. Jésus a pris cette honte à la croix. Il a pris le temps, 3 heures de souffrance pour cela. J'irai même plus loin, et il est dit, on peut le voir dans Matthieu 27, 41, il est même précisé que les principaux sacrificateurs, les scribes, les membres du Sanhédrin, ils ont aussi insulté Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce sont des érudits, des personnes qui connaissent la parole de Dieu. C'est des personnes, des autorités qui ont insulté Jésus. Ça me fait penser à quoi? Cela nous parle de situations que peut-être tu as vécues, des blessures immenses, qui ont été semées par des personnes de l'Église. De ton église locale, peut-être même par des pasteurs qui ont porté des coups à l'intérieur de toi et tu as encore la blessure. Jésus a fait en sorte qu'on puisse écrire cela pour dire que sur la croix, il a porté cette blessure-là. Alors les amis, la croix, l'œuvre de la croix, c'est nos blessures qui sont portées. Viens déposer tes blessures à la croix, s'il te plaît. Jésus te dit, je l'ai porté à la croix. Waouh, pendant 6 heures, il y a des choses intenses qui se passent. 6 heures sur la croix. Là, on est sur les 3 premières heures et on découvre quoi? Je fais un récap. Premièrement, dès qu'il est cloué, il relâche le pardon. On a gardé ça en mémoire. Deuxièmement, pendant tout ce temps, il se fait insulter. Calomnier, c'est la honte, c'est l'injure. Il ne bronche pas, il ouvre uniquement la bouche pour sauver le brigand qui est à côté et il prend toute notre honte, toutes nos blessures, toutes les calomnies que tu supportes en ce moment. Peut-être même tes parents, ça me vient, tes parents ont dit des choses sur toi. Dans la famille, tu as eu des blessures immenses. Jésus te dit aujourd'hui, je porte cette blessure. Décharge-toi sur moi et tu verras. Deuxième moitié de temps, ce sont les 3 dernières heures. Il n'y a pas de titre assez spécial, je n'en ai pas trouvé. 3 premières heures, 3 dernières heures. D'ailleurs, c'est ce que la Bible décrit. On part maintenant de la 6e heure à la 9e heure. C'est-à-dire de midi à 15h. En fait, Jésus a resté sur la croix 6 heures, de 9h à 15h. Qu'est-ce qui se passe dans ces derniers moments-là? Plusieurs événements qu'on liste et que la Bible porte à notre connaissance. Premièrement, le ciel va s'obscurcir par le fait d'une éclipse miraculeuse. On va avoir une éclipse solaire. Alors, je suis allé chercher un peu, parce que souvent vous entendez des gens qui disent « Écoutez, votre Jésus n'a pas existé, tout ça c'est des choses qu'on raconte. » Je suis allé chercher un peu. Écoutez ceci. La NASA a fait des études là-dessus. Des historiens ont écrit, on a les noms, je ne vais pas citer tout ça ici, mais des historiens ont écrit, il y a des historiens qui notaient tous les événements par rapport aux Jeux Olympiques. Et il y a un parmi eux qui a dit que à l'entre en 3, un vendredi, en avril, il y a eu de façon miraculeuse, inattendue, une éclipse solaire qui a duré 3 heures. et que cette éclipse-là, le centre qui était visible, en fait, c'était une éclipse sur tout le monde entier, mais c'était visible et ça durait 3 heures sur la région de Béthanie, en Israël. Ça, c'est un historien qui écrit, ce n'est pas un évangéliste. Et ça, c'est dans les premiers siècles. La NASA va faire des études et remonter le temps avec le tour des planètes et tout cela. Et la NASA va tomber pile poil sur un vendredi 3 avril 33, de l'an 33. Il y a eu une éclipse totale et même conclusion, visible pleinement pendant 3 heures dans cet endroit-là de la Terre. Si vous voulez une preuve, vous en avez. On va avoir une éclipse qui va se passer. Mais l'éclipse miraculeuse qui arrive, elle nous parle de quoi ? La nuit va tomber sur la terre, et principalement pendant 3 heures sur cette région où Jésus était crucifié. Pourquoi ? Parce que simplement Dieu va détourner son regard de l'horreur qu'il y avait sur la croix. Jésus était en train de porter sur la croix ton iniquité, mon iniquité, l'iniquité des gens de l'année dernière, l'iniquité des générations à venir. En fait, le péché de tous les êtres humains, de toutes les époques, de tous les siècles, de toutes les régions, était porté sur lui à ce moment-là. Est-ce que tu arrives à regarder tes propres péchés ? Moi, j'arrive pas. Mais vous imaginez les miens, plus les tiens, plus les tiens, plus les tiens, plus les tiens, plus tout le monde, des siècles passés, des siècles à venir. Il avait tout ça sur lui à la croix. Dieu ne pouvait pas regarder cela. Il a détourné son regard. Et la nuit qui tombe sur la terre, c'est le signe du jugement du péché. Dieu va juger le péché du monde. Mais il ne va pas le juger sur chacun de nous. Il va le juger sur Jésus. Parce que Jésus l'a porté. Et c'était la mission. C'était horrible. Tellement horrible que le soleil va s'obscurcir pendant 3 heures sur cette zone de la terre. Et tout le monde entier a connu cette éclipse-là. Le jugement du péché qu'on a porté. Les amis, l'œuvre de la croix, c'est nos iniquités qui sont déchargées sur Jésus. Déchargées sur lui, tout simplement. J'ai un exemple qui me vient. Imaginez quelqu'un qui arrive, il est multimilliardaire, plus riche que tout, et il dit, ok, je vais voir toutes les banques, tout le système bancaire du monde entier, et je vais payer les dettes de tous les êtres humains de la Terre. On aimerait bien ça, hein ? Tout de suite, allez, oups, tiens. On a tous des dettes, n'est-ce pas ? Enfin, bon, certains ont des dettes, ou on a connu cela. Alors, il vient et il le dit et il annonce publiquement. Alors, le système bancaire, c'est, ok, ben, ok, on va ouvrir un site internet, c'est de nos jours, hein. On va ouvrir un site internet. Tous ceux qui veulent faire passer leur dette, se décharger sur ce monsieur, vous vous connectez, vous rentrez en compte et vous téléchargez votre document de dette sur le dossier et vous faites valider. Et c'est fini. En fait, c'est ça la croix. Et le monsieur, il a bloqué des milliards et des milliards qui correspondent à la dette de tout le monde. Et ça attend, en fait, que tu décharges ton document sur le site et que ce soit débité. Et toi, tu es libéré. Mais vous savez ce qu'on fait dans le monde aujourd'hui ? On garde notre dette. Non, je ne veux pas, je garde. Je veux continuer de souffrir. Alors qu'il y a la somme qui est là, il faut juste décharger sur lui. Et c'est ça l'image. Jésus a payé, il a tout pris déjà. Ton péché, il a déjà pris. Juste décharge. Décharge-toi. Oh ! Ne reste pas avec ton péché. Ne souffre pas. Et le diable aime qu'on souffre et qu'on garde notre péché. Et il est là, il te culpabilise. Tu as vu, tu es mauvais. Tu n'y arriveras jamais. Mais non ! Jésus a payé pour nous. C'est fait. Je me décharge. Ça nous demande de faire un pas. Ça nous demande de faire un effort. Le seul effort, c'est de se connecter et de faire télécharger. Hop, valider. Ça ne coûte pas grand-chose, les amis. Pourquoi on se tue à garder notre péché, à vivre dans le malheur, alors qu'il a porté sur la croix, quoi. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui souffre, qui ne connaît pas Jésus. Écoute, je te dis, il a payé pour toi. Fais le test de te décharger sur lui et tu verras ce qui va se passer. Je te promets que tu vas rendre témoignage. Jésus. 1 Pierre 2, 24 nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtres sur duquel vous avez été guéri. Il y a une dimension de guérison. Je ne vais pas aller dans ce sens aujourd'hui. C'est vraiment de regarder ce qui se passe sur la croix. Donc, on vient de voir le jugement du péché du monde avec cette éclipse-là. Et puis, quelque chose va se passer après. Là, pendant 3 heures, il y a toute la nuit, il y a le jugement qui se passe et on a la fin de cette troisième heure, donc on est à 15 heures, et quelque chose va se passer. Lisons dans Marc 15, 34. Il est dit, Marc utilise la chronologie juive, vous avez compris, donc la neuvième heure, c'est 15 heures. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu ». Pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est bizarre cette prière. À la fin des 3 heures, Dieu avait détourné son regard. Et Jésus va s'écrier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il y a des gens qui se basent sur ce verset-là pour dire, mais en fait, Jésus n'est pas Dieu. Non. Vous savez ce qui se passe ? Et c'est la seule, quand on regarde en tout cas de ce qui nous est rapporté dans la parole, c'est le seul moment où Jésus va prier de façon publique, parce que là, il va crier pour qu'on l'entende. Il pouvait le faire dans un doux murmure, mais il va crier pour que ce soit noté, que ça vienne jusqu'à nous. Et c'est le seul moment où il ne dira pas « Abba ». Il ne dira pas « Père ». Vous savez pourquoi ? Parce que le péché qu'on a, le péché du monde, quand tu ne peux pas être un enfant de Dieu avec ce poids du péché. En fait, qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a enlevé notre séparation d'avec Dieu. Il a porté lui de sorte qu'il n'était même plus en mesure de dire « Abba, Père, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Il dit « mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Il s'est séparé. Il a accepté lui, qui est sorti de Dieu, d'être mis à l'écart pendant ce temps-là pour que toi, tu puisses hériter et devenir enfant de Dieu. Pour que tu puisses appeler Dieu ton Père. Donc, il va crier pour qu'on entende cela. Il aurait pu le faire tout doucement, mais pourquoi tu m'as abandonné ? Non. Mais il va crier, non pas pour dire qu'il était en train de souffrir au point où il regrettait ce qui se passait sur la croix. Non, mais c'est pour nous enseigner aujourd'hui. Juste pour me dire à moi, Gérard, que quand il était sur la croix, il a accepté de ne plus être Fils de Dieu, il a perdu même sa position divine pour que je puisse rentrer dans le royaume de Dieu et que je puisse appeler Dieu mon Père. L'œuvre de la croix, c'est ça, les amis. C'est un Père qui t'est donné aujourd'hui. C'est un Père qui t'est donné aujourd'hui. Le diable veut détruire l'image de la paternité des pères dans les familles. Combien de personnes n'ont pas été blessées par leur père ? Et nous, les pères, on doit prier pour faire attention à cela. Parce que le diable veut tellement détruire l'image de la paternité. C'est pas à cause de nous. Hein. Mais c'est par rapport à ce que Dieu veut montrer. Et c'est tellement important que Jésus va faire cette phrase, il va enlever le mot père, pour montrer combien le péché enlève notre adoption. Si tu es blessé ou tu as été blessé par ton père, si tu as été abusé par ton père, et tu écoutes et tu dis, waouh, je ne l'ai jamais dit, Dieu veut être un père pour toi aujourd'hui. L'œuvre de la croix, c'est d'enlever cette blessure. Et tu vas voir un père qui t'aime, et il va effacer tous tes péchés. Il va effacer toute ton humiliation que tu as connue. En fait, l'œuvre de la croix, c'est la réconciliation d'avec Dieu, les amis. Dieu va nous réconcilier avec lui au travers de ce que Jésus a fait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? La réponse, c'est le péché de Gérard est trop lourd sur tes épaules. Et je me détourne de ce péché, je le juge pour que Gérard puisse m'appeler père. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, je ne le mérite tellement pas. Quel amour. À la fin de ces troisième, de cette, enfin, à la fin de ce temps, donc à 15 heures, alors que Jésus va crier, quelque chose va se passer. Un deuxième événement va se passer. Il est dit que le voile du temple se déchire. De haut en bas, on peut le lire dans Luc 23, 45. Le voile du temple va se déchirer. En fait, le voile du temple à l'époque juive, il y avait un voile qui séparait le lieu où tout le monde pouvait se rassembler et le lieu où Dieu avait réservé pour sa présence. Et là, une personne rentrait, le sacrificateur, on lui attachait même une ficelle au pied avec des clochettes. Au cas où le gars il n'est pas suffisamment saint et qu'il tomberait de mort à l'intérieur, on va le tirer parce que personne n'osait entrer. C'était vraiment cela. Et à la mort de Jésus, sur la croix, alors que Dieu a fini de juger notre péché, alors que le soleil va recommencer à paraître, alors que le jour va recommencer à paraître, quelque chose va se passer. Dieu va déchirer le voile de haut en bas pour dire, hey, maintenant vous avez un accès direct. Vous avez un accès direct au sein des saints. On est enfant de Dieu. Maintenant, la réponse à la prière de Jésus est donnée. Oui, ils peuvent rentrer maintenant. Ils peuvent rentrer. Bravo Jésus, tu as fait l'œuvre. Ils peuvent venir dans le sein des saints. Je les accueille au pied du trône divin. C'est une réalité, les amis. Tu peux avoir accès à Dieu. Ne dis pas, je suis trop mauvais. Je ne peux pas m'approcher de lui. Il est trop saint. Oui, c'est vrai. Mais lui te dit, je t'accueille. Viens, je suis ton père. L'œuvre de la croix, c'est cela, les amis. L'œuvre de la croix, c'est un accès direct à Dieu. Direct. Excusez-moi, ne passez pas par des intermédiaires. Les saints canonisés par-ci, par-là, je suis désolé. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors arrêtons cela. Jésus, direct. L'accès est là. La parole de Dieu faite chair nous donne l'accès à la toute plénitude de Dieu. Allons-y par là. Pourquoi prendre des détours, les amis? Il a payé si fort pour ça. En fait, l'œuvre de la croix, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui crie aujourd'hui. Mais arrêtez les gars, j'ai tout payé. Arrêtez. Et ça crie fort dans mon cœur. L'œuvre de la croix, j'ai un accès direct. Je ne passe plus par des êtres humains. Je ne passe plus par Marie. Je ne passe plus par un ange. Je ne passe pas par un soi-disant saint, un apôtre. Ce sont tous des instruments comme moi. Et Jésus aurait pu naître au travers d'une de nos sœurs d'aujourd'hui. Mais elle a choisi cette dame à ce moment-là. Elle est bénie. Dieu soit loué pour sa vie. Mais l'accès au ciel, l'accès à Dieu, c'est Jésus. On est dans des temps où on voit que le monde va à sa fin parce qu'il y a des choses horribles. J'ouvre juste une parenthèse et j'ai fait un rapport entre, bon, pour ceux qui connaissent la Bible, entre ce qui se passe à Sodome et Gomorre et ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a deux semaines de cela, ça m'est venu comme ça. Je dis, waouh, c'est quoi cette idée? Je l'ai partagée à mon épouse. Je dis, c'est bizarre. En fait, quand vous lisez l'histoire de Sodome et Gomorre, c'est peut-être la seule fois, si je ne me trompe pas, où Dieu va descendre pour appliquer un jugement sur une ville. Il va descendre lui-même. Et les théologiens s'accordent à dire que les trois personnes qui étaient là, si vous lisez tout, il y avait la présence, il y avait Jésus, il y avait Dieu là-dedans, qui descend pour juger une ville. On est dans la fin des temps, les amis. Et Dieu veut qu'on revienne à l'œuvre de la croix. Dieu veut qu'on revienne à l'œuvre de la croix. Je ferme cette parenthèse. Le dernier mot prononcé sur la croix, on va finir par là. Le dernier mot qui est prononcé sur la croix, j'ai mis vraiment un titre à part pour cela. On est donc à la fin, on est à 15 heures. Il y a eu l'éclipse. Jésus a fait la fameuse prière, donc le jugement a été fait. Jésus a prié. Le voile est déchiré, accès direct. Et maintenant, Jésus va dire ceci. Jean 19, 30, il dit... Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Terminé. Finished. Les Anglais disent finished, fini. Et en fait, quand vous prenez le terme accompli, téléo en grec, il y a plusieurs, une vingtaine de synonymes, d'explications. Et il y a le accompli, bien sûr, il y a fini et il y a le mot payé. Et c'est comme si Jésus était en train de dire, là, quand il a baissé la tête à ce moment-là, le voile étant déchiré maintenant, l'œuvre est faite. tout est payé. Tout est payé. Je reviens à l'image de cette personne qui pourrait mettre des milliards là et il dit, et il passe à la télé sur toutes les chaînes, il dit, les gars, tout est payé, allez-y. Mais il faut y aller. Il faut venir à la croix. Je vous en supplie. Pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui et qui ne connaît pas Jésus, qui dit c'est qui ce Jésus, c'est qui cette personne qui s'est donnée, qui est mort d'une mort aussi horrible pour moi, juste viens. Viens devant l'œuvre de la croix et dépose tout. Et dis, ok, je me décharge sur toi, Jésus, parce que tu as tout payé à la croix. Il a payé tout le prix. Les amis, l'œuvre de la croix, c'est le prix qui est payé pour notre salut. C'est le prix qui est payé pour que tu sois sauvé. Et il a dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. J'ai une pensée, je vais ouvrir cette parenthèse très rapidement parce que je n'ai pas de précision, mais je crois que le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un. Et si je n'ai pas de précision, je pense que c'est parce que Jésus a porté ta honte, toi qui m'écoutes et qui va te concerner, Jésus a porté ta honte sur la croix, il ne veut pas t'humilier devant tout le monde. Mais de façon précise, voilà ce que j'ai reçu. Une personne, chrétienne ou pas, je ne sais pas, mais qui écoute cette parole maintenant, et Dieu est en train de te dire quelque chose de très précis, et il met le doigt sur ce que tu vis aujourd'hui et que tu trouves tellement horrible. Les choses sont précises, les amis, j'ai beaucoup lutté avant de relâcher cette parole. Je vais le dire dans la simplicité du Saint-Esprit, et si la personne est concernée, qu'elle se rapproche de ses pasteurs dans son église locale, ou qu'elle se rapproche de pasteur Omaric si elle est chez nous, mais le Saint-Esprit te dit ceci. Tu as une double vie avec deux collègues. C'est précis, avec deux collègues. Et c'est très clair ce que j'ai vu. Tu as une double vie avec deux collègues et tu te dis, je ne vais jamais m'en sortir. Je ne vais jamais m'en sortir. Et chaque fois que tu veux t'en sortir, tu t'enfonces encore plus. Et spécialement, j'ai reçu cela et... J'arrive pas à le tenir, alors je te relâche cette parole. Tu m'écoutes peut-être aujourd'hui ou tu écouteras après, mais s'il te plaît, Dieu met le doigt sur ce péché-là pour te sauver, pour te libérer. Il y a des ministères qui sont là, comme le ministère de pasteur Romaric et Céline, pour la restauration et la compassion. Tu peux les contacter et on va prier ensemble, on va travailler ensemble pour que là où tu n'y arrives pas, que l'œuvre de la croix fasse son effet dans ta vie. Amen. Je ferme la parenthèse. Les amis, l'œuvre de la croix n'est pas parfaite si Jésus reste dans le tombeau. Parce qu'en fait, il est mort, oui. Mais en fait, Jésus va ressusciter. Le troisième jour après sa mort, il va ressusciter. Il ne va pas rester dans le tombeau. Le tombeau ne pouvait pas le retenir. C'est le roi des rois. C'est le créateur de l'univers. Aucun tombeau ne pouvait retenir Jésus. Et vous savez pourquoi il est ressuscité? Pour qu'on soit justifié. Notre péché a été pardonné dès le début, jugé pendant l'éclipse et justifié à la résurrection. Regardez le texte, Romains 4, 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. L'œuvre de la croix va jusqu'à la résurrection. On ne pouvait pas terminer ce message sans parler de la résurrection. Et au travers de la résurrection, pasteur Romaric me partageait, au travers de la résurrection, certains vont ressusciter aujourd'hui. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Un ministère qui est mort, un don qui est mort, une promesse qui est enfouie, des projets qui sont morts depuis le départ. Dieu veut ressusciter cela aujourd'hui parce qu'il a payé le prix à la croix et qu'il est ressuscité pour toi. Amen. Amen. Les amis, je vais demander à l'équipe de louange de venir si elle y arrive, mais la croix a vraiment le dernier mot, les gars. Le dernier mot, c'est la croix. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas la culpabilité que je porte. Ce ne sont pas les souffrances que je porte. Ce n'est pas mon péché qui a le dernier mot. Ce n'est pas la situation difficile dans ma famille qui a le dernier mot. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas la pauvreté. Ce ne sont pas mes péchés. Mais c'est la croix qui a le dernier mot. Je veux me le dire à moi-même. Gérard, la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Tu peux le déclarer. La croix a le dernier mot. Amen.